toutes et à tous et bienvenue à notre émission consacrée aujourd'hui à l'économie.
Nous allons parler du commerce international et notamment de la question du pouvoir des firmes multinationales.
Nous ouvrirons cette émission par un extrait du journal télévisé consacré à l'entreprise Apple.
Nous allons ensuite tester nos connaissances sur les paradis fiscaux grâce à une vidéo pédagogique.
Nos reporters intrépides sont partis dans les rues de Barcelone à la recherche de la bonne définition de firme multinationale. Ils ont également enquêté sur l'installation de la firme Amazon à Barcelone.
Nous enquêterons sur l'histoire récente du commerce en Chine.
Nous finirons par une petite mise en musique.
Et maintenant, place à notre JT sur Apple, animé par Chantal, Alex et Naïma.
Bonsoir, ici Naïma et Dominique Antonio à TV5 Monde. Nous allons ce soir vous présenter le cas de Apple pour développer un peu le thème de la mondialisation. Premièrement, rappelons certaines informations sur Apple. Apple est une société anonyme créée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak. Son siège se trouve à Cupertino, en Californie, et a été implanté au cœur de la Silicon Valley, qui est le premier technopole du monde. Suite à cela, nous allons voir comment les iPhones arrivent à nous. L'iPhone est réalisé à partir de la DIPP, Division Internationale du Processus Productif, faisant intervenir différents territoires qui, en fonction de leurs avantages comparatifs, contribuent à la fabrication du produit fini, assemblé en Chine. Les téléphones sont transportés dans des conteneurs et empruntent les grandes routes maritimes mondiales. En effet, l'iPhone est conçu aux États-Unis, produit et assemblé en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Ainsi, nous pouvons parler d'une diffusion mondiale. Tous les continents sont concernés, même si l'essentiel des ventes se réalise dans les pays de la triade qui gardent ici sa pertinence. Apple tente tout de même aujourd'hui de conquérir les marchés des pays émergents, notamment la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais comment Apple se démarque de la concurrence? Apple applique la théorie du branding, gestion de la marque, qui consiste à se débarrasser de toute responsabilité sociale et environnementale, forcément coûteuse et juridiquement risquée, pour mieux se concentrer sur la valorisation de sa marque. Puis l'entreprise essaye d'apporter à chacun de ses produits quelque chose de novateur, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'a pas observé chez les produits concurrents. Apple se démarque aussi grâce à la qualité de ses produits. Tout cela peut se voir avec les géantes files d'attente lors des ventes de lancement devant les Apple Store. Ceci est en effet spectaculaire. Cependant, il semble être qu'Apple n'est pas si génial comme beaucoup de gens le pensent. On parle même d'inconvénients concernant la marque. En effet, nous allons voir qu'Apple pratique de l'évasion fiscale. Pour cela, nous allons contacter notre journaliste, Chantal Cochin, qui se trouve en Irlande. Bonsoir Chantal. En effet, il semble qu'Apple pratique de l'évasion fiscale. Pouvez-vous nous présenter un peu le cas ?
Bonsoir Naïma, je me trouve ici devant la filiale de la firme transnationale Apple à Cork en Irlande. En effet, Apple est l'une des plusieurs entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale afin d'échapper à l'impôt. L'évasion fiscale est une activité que pratiquent certaines personnes et entreprises lorsqu'ils cachent leurs biens des autorités tributaires afin de payer moins d'impôts de ce qu'ils devraient payer légalement. À partir d'une certaine quantité, ceci est considéré comme un délit fiscal qui sont sanctionnés avec des peines privatives de liberté. Or, les fraudes de moindre quantité sont sanctionnées avec des amendes. Par contre, dans certains pays et selon la technique utilisée, l'évasion fiscale est légale. Ce sont donc les paradis fiscaux. Il y a plusieurs techniques de moyens d'évasion fiscale, comme par exemple conserver l'argent hors du circuit bancaire et de ne pas déclarer tous les biens, mais aussi en changeant la nationalité et prenant celle d'un État avec des avantages fiscaux, comme par exemple la Suisse, l'Irlande, le Panama, Malte, etc. Apple est une entreprise qui produit des milliards de bénéfices. De plus, c'est une entreprise qui n'arrête pas d'augmenter ses profits. En effet, les profits de l'entreprise sont passés de 5 milliards de dollars en 2007 à 34,2 milliards en 2011. Les profits se sont multipliés par 7 en uniquement 4 ans. Apple paye un impôt sur les sociétés aux États-Unis. L'entreprise déclare une grande partie des impôts à Reno, à l'État de Nevada, aux États-Unis. Le but de ceci est de payer moins d'impôts, puisqu'en 2001, l'impôt sur les entreprises se trouvait à 8,84%. en Californie, alors qu'à Reno, il était de 0%. Ceci permet à Apple de payer moins d'impôts et donc de conserver une plus grande partie de son capital. Sur le plan international, Apple a placé une filiale à Cork, en Irlande, qui dispose d'un taux d'imposition de 12,5%. Les premiers accords se sont effectués en 1991. Apple est aujourd'hui condamné par la Commission européenne à une amende de 13 000 $ pour évasion fiscale. Apple a utilisé pendant plusieurs décennies un système qui impose tous les points de vente des produits Apple en Europe et en Asie d'envoyer tous leurs bénéfices aux sociétés irlandaises du groupe Apple. Ces bénéfices étaient ensuite envoyés à des entreprises qui n'avaient aucune activité mercantile et donc étaient incapables d'obtenir des profits. Leurs activités n'étaient pas enregistrées et donc ne devaient pas payer d'impôts. D'après la recherche de la Commission européenne de Bruxelles, cette pratique d'optimisation fiscale a permis à la firme de payer uniquement 1% de ses profits générés en Europe en 2003. Et ce pourcentage a diminué au cours des années jusqu'à atteindre le pourcentage le plus faible qui se trouve à 0,005% en 2014.
Merci Chantal. Tout de même, il semble qu'Apple présente un autre inconvénient majeur. On parle ainsi de l'obsolescence programmée qui a des effets très négatifs sur l'environnement et du point de vue social. Pour cela, nous allons contacter Alex Brotodo, notre journaliste qui se trouve devant le Apple Store à New York City. Bonsoir Alex, expliquez-nous un peu cela.
Bonsoir Maïma. Effectivement, jusqu'à décembre 2017, la question de si Apple utilisait ou pas l'obsolescence programmée n'était pas très claire car il n'y avait pas de témoignages véridiques ou démontrables. Mais beaucoup pensaient qu'il était ainsi parce qu'ils estimaient que la performance de leurs iPhones n'était pas la même étant nouveau ou ayant une ou deux années d'usage. Cette incertitude par contre a disparu en fin d'année dernière grâce à la page web Geekbench qui a démontré que les iPhones usagés étaient bien plus lents que les nouveaux du même modèle. Apple, pour se défendre, est sorti pour dire que cela avait été fait pour que la batterie ne souffre pas tellement, car elles vieillissent plus rapidement que les processeurs. Pourtant, Apple a été dénoncé aux États-Unis parce que d'une part, elle n'a pas consulté leurs clients pour prendre cette décision, et d'autre part, elle n'a rien dit jusqu'à ce que les utilisateurs se sont rendus compte par eux-mêmes. Mais pourquoi une entreprise aussi grande et réputée comme Apple utiliserait ce type de technique risquée ? D'après les experts, ceci n'est fait qu'uniquement pour améliorer les bénéfices de l'entreprise. Car si un utilisateur est fatigué de son vieux et lent iPhone, il voudra en acheter un nouveau. Un autre scandale qui le prouve est le coût des réparations du verre arrière du nouveau iPhone X. Il est bien connu qu'un verre est très fragile et peut se casser avec une réelle facilité. Apple, pour en profiter, a mis le prix de réparation de ce verre arrière à 550 €, plus de la moitié de la valeur de l'iPhone nouveau. Bien qu'il puisse sembler que cette obsolescence programmée nuit seulement à l'acheteur, ce n'est pas le cas, car l'environnement en souffre aussi beaucoup. Comme les clients vont acheter plus d'iPhone, la demande va considérablement augmenter, mais aussi la production et donc la demande de matières premières. Matières premières qui d'un côté ne sont pas infinies, donc vont disparaître avec le temps, et d'un autre côté qui ne sont très certainement pas recyclables, donc rejetées dans la nature, ce qui la pollue, en plus de gaspiller des matériaux très précieux. Au niveau européen, cette stratégie est très peu punie. En 2014, la France a approuvé une loi qui condamne à 2 ans de prison et une amende de 300 000 € aux entreprises qui pratiquent cette technique. Par contre, cette condamnation économique est insignifiante pour des entreprises de la taille d'Apple. D'un autre côté, l'Union européenne veut obliger aux grandes entreprises à que leurs appareils soient réparés par des indépendants. Quelque chose qui aujourd'hui annule la garantie des iPhones. Enfin, elle veut aussi récompenser économiquement les entreprises dont les produits sont de bonne qualité, durables et de facile réparation. Même si on dirait qu'Apple fait de son mieux pour provoquer l'obsolescence programmée, en raccourcissant la vie de ses iPhones et augmentant le coût de réparation en plus de ne pas vouloir que ses produits soient réparés par les indépendants, il faut quand même dire que même si moralement l'utilisation de cette technique est très mauvaise, il est vrai que l'entreprise a besoin de l'utiliser, pas uniquement Apple, pour vendre plus. Par exemple, GoPro, connue pour fabriquer des caméras extrêmement résistantes et durables, aujourd'hui a des problèmes de vente car les gens n'en achètent plus ou en achètent d'occasion grâce à la durabilité de ces objets, en plus d'être connu par avoir de très bonnes prestations même si le modèle a 2 ou 3 ans dans le marché. Comme ces modèles sont sortis au marché il y a 2 ou 3 ans, l'entreprise ne la fabrique plus et donc ne gagne plus d'argent, même si elles sont achetées d'occasion. Enfin, même si aujourd'hui ça a été Apple qui a été découverte et sera très probablement punie, il faut aussi dire que peut-être demain, une autre entreprise sera découverte car Apple n'est sûrement pas la seule entreprise à utiliser cette technique.
Merci Alex. Cela est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu qu'Apple domine beaucoup le marché et possède de bonnes techniques pour se démarquer. Cependant, il existe des inconvénients et des pratiques contestables concernant la marque, notamment l'évasion fiscale et les effets causés par le phénomène de l'obsolescence programmée. Donc ici termine notre émission. Merci de votre écoute et à demain.
C'est parti pour un petit tour du côté des paradis fiscaux avec Martin, Marc et Alexandre.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des paradis fiscaux. Et pour pouvoir imager ce thème d'actualité, nous allons créer un personnage, Pierre Acrylique. Pierre est chef d'une entreprise d'événements qui cherche à optimiser ses bénéfices. Nous allons donc suivre son parcours, sa démarche et ses choix. L'entreprise de Pierre réalise de bons bénéfices, mais il trouve que l'État lui en retire une trop grande partie, ce qui empêche donc son entreprise de prendre une plus grande dimension. Pierre veut donc essayer de fortement diminuer le montant d'impôts, mais il n'y trouve pas le moyen. Un jour, en lisant la presse, il tombe par hasard sur un article concernant les avantages monétaires des paradis fiscaux. Pierre décide donc de se renseigner sur le sujet auprès de son ami banquier qui lui explique le fonctionnement des paradis fiscaux et les étapes à suivre. Par contre, il avertit des gros risques qu'il prend, comme par exemple la peine de prison. Pierre apprend alors que pour être un paradis fiscal, un pays doit répondre à trois critères. Un taux d'imposition faible ou nul pour les entreprises ou les particuliers, un manque de transparence concernant la manière dont sont calculés les impôts, et enfin, un manque de coopération concernant la communication aux autres pays sur les montants d'impôts déclarés ou l'identité des déclarants. Dans ces pays, il y a souvent un fort secret bancaire qui garantit la confidentialité des informations bancaires d'entreprises et des particuliers comme en Suisse, et un secret judiciaire qui permet aux chefs d'entreprise de garder l'anonymat. L'administration fiscale des autres pays n'ont donc aucun moyen de savoir les sommes qui leur échappent. Pierre pense avoir trouvé la solution. Toutes ces séries de lois et d'avantages aux entreprises l'intéressent fortement. Il commence donc à faire ses recherches sur comment monter au mieux son affaire. Pierre décide donc de créer une holding, soit une société écran en français. Cela consiste à créer une société fictive basée dans un paradis fiscal. L'objectif pour Pierre est de transférer un maximum de ses bénéfices vers cette société écran, mais pour cela, la holding vend des biens et des services à prix excessivement élevé à l'entreprise. Celle-ci a plus de charges à payer, fait moins de bénéfices et paye donc moins d'impôts. La holding, quant à elle, aura plus de bénéfices, mais qui subiront très peu les impôts, car le pays a un taux d'imposition très faible. Grâce à cela, Pierre a donc trouvé son filon. Il voit ses bénéfices augmenter considérablement et il paye nettement moins d'impôts. Tout réussit à son entreprise qui surclasse donc la concurrence. Pierre gagne maintenant énormément d'argent, mais toute bonne chose a une fin, il le sait. Or, son optimisation fiscale est risquée et ne tient qu'un fil. Un matin, Pierre voit le nom de son entreprise maintenant mondialement connue à la une du journal télévisé pour évasion fiscale. L'image de son entreprise est alors dégradée, ce qui fait chuter ses ventes et par-dessus tout, il écope d'une peine de prison de 7 ans et 3 millions d'euros d'amende. Cela va donc provoquer la disparition de l'entreprise de Pierre Acrylique dans le marché et donc la disparition même de l'entrepreneur.
Nos reporters intrépides sont partis dans les rues de Barcelone à la recherche de la bonne définition de firme multinationale.
Ils ont également enquêté sur l'installation de la firme Amazon à Barcelone.
On dénombre plus de 80 000 firmes transnationales dans le monde. Elles jouent un rôle majeur dans la mondialisation, que ce soit au plan économique, social, technologique ou même politique. Cependant, même si ces puissantes entreprises sont des éléments essentiels pour le développement de notre société actuelle basée sur la consommation, la plupart des gens doutent encore alors de définir qu'est-ce qu'une FTN. Le 31 décembre, on est sorti dans les rues de Barcelone à la recherche d'une définition formulée par les gens et de leur avis personnel sur ces institutions. Voilà ce qu'on a retrouvé.
La multinationale est un montón d'empresas, comme sí. Tipo Zara ou tipo...
C'est une empresa muy grande.
La multinacional és una empresa desmesurada que s'implanta tot el món i per tant no controla el mercat.
Tous les témoins semblent être d'accord sur le fait qu'une firme multinationale est une entreprise de grande taille. Cependant, on devrait ajouter à leur définition qu'une FTN a une logique de fonctionnement et de gestion qui se réfléchit à l'échelle du monde. On doit aussi tenir en compte qu'une FTN n'aura pas seulement des activités de vente à l'étranger, mais aussi de production. Ces grandes entreprises sont propriétaires minimum de 10% d'une ou plusieurs autres entreprises que l'on connaîtra comme des filiales. Puis finalement, on ajoutera que les FTN ne contrôlent pas seulement leurs respectifs marchés, mais aussi le commerce mondial, puisqu'à peu près 2/3 des échanges internationaux sont réalisés par celles-ci, ainsi qu'environ la moitié du PIB mondial. On vient donc d'analyser les différents aspects d'une firme multinationale. On va maintenant se demander en quoi on pourrait dire que notre ville Barcelone est un territoire attractif pour les IDE de ces entreprises et pour la mondialisation. Tout d'abord, Barcelone a une place stratégiquement connectée dans le littoral méditerranéen. Elle a un rapide accès aux 3 continents qui entourent la mer Méditerranée. Puis à travers le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar, elle peut s'ouvrir au reste du monde, comme par exemple au continent asiatique ou à l'américain. De plus, la Catalogne est la principale porte de sortie au reste du continent européen. Ses excellentes connexions par voie maritime et terrestre en font de la ville un centre logistique de grande importance. On devrait aussi souligner le fait que Barcelone a été récemment choisie en 2014 comme la capitale européenne de l'innovation à cause de l'impulsion de nouveaux secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie mobile, l'énergie verte ou la biomédecine, entre autres. C'est aussi une des villes avec les meilleures conditions de vie au monde. Cela pourrait expliquer qu'elle occupe la 6e place dans le classement général des villes les plus touristiques au monde. Donc, pour ces raisons et des nombreuses autres, la ville catalane est une bonne opportunité pour investir sans risque.
On va maintenant se centrer sur le cas du grand investissement qu'a réalisé Amazon à Barcelone ces dernières années. L'entreprise américaine est une FTN qui a des sites internet dans tous les continents sauf l'Afrique. Amazon a vécu une énorme croissance ces 10 dernières années, ce qui a permis qu'elle s'installe dans plusieurs pays, notamment ici en Espagne, où Amazon a investi plus de 700 millions d'euros. À Barcelone, elle a construit 3 centres de différents types et 2 nouveaux centres ont été inaugurés ce dernier automne. François Nuit, vice-président et directeur général de Amazon en Espagne et Italie, nous affirme que la ville catalane est le lieu idéal à cause du grand réseau d'universités et l'excellente qualité de vie qui font de la ville un destin très intéressant. C'est évident que l'arrivée d'Amazon a eu un impact positif pour la ville, notamment économiquement parlant, mais aussi on y trouve plusieurs aspects négatifs. Grâce à l'installation d'Amazon à Barcelone, les clients peuvent acheter des produits sans bouger de chez eux, quelle que soit l'heure, et reçoivent le produit où ils le souhaitent. Donc c'est un système plus rapide et facile bénéficiant le client. On peut ajouter que Amazon offre une grande variété de produits et de marques aux clients. Celui-ci, il peut aussi lire les appréciations de notre client sur chaque produit. Le client obtient une plus grande variété de choix. D'autre part, les petites et moyennes entreprises peuvent vendre en dehors de sa localité et si leurs produits reçoivent des bonnes appréciations, cette entreprise aura plus de probabilités de vente. L'arrivée d'Amazon a créé plus de 3000 emplois à Barcelone, donc elle a contribué à une augmentation considérable de l'emploi. Finalement, le fait que le nouveau centre de El Prat soit un des centres les plus robotisés d'Europe est un énorme progrès technologique pour le pays. D'une autre part, il y a aussi des aspects négatifs à souligner de l'installation d'Amazon dans la capitale catalane. La vente de produits par Amazon peut nuire les très petites entreprises qui n'ont pas l'option de vendre en ligne, par de multiples raisons. De plus, les conditions de travail sont questionnables. En effet, Amazon a reçu de nombreuses plaintes de la part de ses travailleurs. C'est aussi important à savoir que le fait d'avoir un centre si robotisé limite d'une certaine manière l'emploi. Mais le consommateur n'est pas le seul à perdre dans certains cas. Les entreprises vendant ces produits dans la plateforme peuvent aussi se voir affectées. elles vont perdre la loyauté du client. De plus, Amazon a commencé à vendre ses propres produits. Et comme l'entreprise peut connaître quels produits se vendent le plus et où, elle pourra lancer une ligne de marque blanche similaire à ce produit en créant de la concurrence aux marques originelles.
Dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, les FTN ont acquis un pouvoir énorme étant même à la base de l'économie. Cependant, derrière toutes ces entreprises, il existe des aspects négatifs qu'une grande partie de la population ne connaît pas. Les gens voient juste une marque et un produit, oubliant les stratégies, la logistique et le travail qu'il y a derrière. Comme je l'ai dit, elle reste à la base de l'économie, et donc aujourd'hui, il existe une volonté à tirer les FTN. On a vu l'exemple d'Amazon à Barcelone qui nous montre que les grandes entreprises ont des effets à la fois négatifs et positifs, mais que les effets négatifs sont plutôt en marge par les intérêts de certaines personnes.
Pour finir, on pourrait donc conclure que la mondialisation englobe la multiplication et l'accélération de l'ensemble des échanges qui ont lieu entre les différentes parties de la planète. Et donc ce processus affectera positivement à l'activité des FTN. Ces entreprises vont chercher à produire en masse sans faire attention aux conséquences indirectes pour la société et à l'environnement. Les effets négatifs se multiplient rapidement pendant que les multinationales s'enrichissent et prennent du pouvoir. Cette autorité va avoir un impact considérable sur les territoires. Et même si les FTN et la hausse du commerce peuvent aider à certains pays à s'intégrer aux divers mouvements de la mondialisation, d'autres territoires vont continuer à être pas seulement exclus de ce processus, mais aussi la plupart du temps seront dominés par les plus puissantes entreprises.
Voyage en Chine pour une histoire récente des échanges commerciaux avec Tamara, Victoire et Paula.
La Chine, du protectionnisme au libre-échangisme. La Chine est un État situé en Asie, dont la capitale est Pékin. Le fond rouge du drapeau représente le Parti communiste et la couleur des Han, ancienne civilisation en Chine. La grande étoile représente le Parti communiste et les quatre petites étoiles représentent les quatre classes sociales, les travailleurs, les paysans, la petite bourgeoisie et les capitalistes patriotes. Troisième pays par sa superficie, c'est un des pays les plus peuplés du monde avec 1,3 milliard d'habitants. La langue officielle est le chinois mandarin. Actuellement, c'est une république populaire gouvernée par Xi Jinping. Revenons un peu en arrière. En octobre 1949, Mao Zedong prend le pouvoir en Chine au cœur d'une guerre civile qui dura de 1946 à 1949 et qui mena l'économie chinoise au plus bas. En 1949, la République populaire de Chine fut créée par Mao. Après avoir connu de nombreuses dominations, comme par exemple l'occidentale et la japonaise, la Chine s'allie avec l'URSS en 1950 et elle devient communiste. Elle organise une économie planifiée, entièrement contrôlée par l'État, et ses relations commerciales se limitent à la sphère asiatique. De 1950 à 1956, les communistes effectuent des réformes. Ils nationalisent les grandes entreprises, qui seront donc dorénavant contrôlées par l'État. Suite à la mort de Staline en 1953, la coopération entre l'URSS et la République populaire chinoise prend fin. Cette rupture entre les deux puissances mène à la Chine à tenter de nouvelles expériences politiques. Mao souhaite que la Chine devienne un modèle dans le monde communiste. Pour cela, il lance deux réformes. Le grand bond en avant, qui dura de 1958 à 1961, et la révolution culturelle, qui dura de 1966 à 1976, qui avait pour but de consolider son pouvoir en s'appuyant sur la jeunesse. Dans le grand bond en avant, on retrouve certaines réformes telles que la mise en commun de toutes les terres et biens, le développement de l'industrialisation dans les campagnes et l'encouragement de la vie collective dans le monde rural. Ces mesures, la révolution culturelle et le grand bond en avant, furent considérés un échec politique. Le grand bond en avant provoqua une famine dont le nombre de morts fut estimé à environ 40 millions de personnes. D'autre part, la Chine a l'ambition de dominer le tiers-monde. Elle apparaît comme un des leaders du tiers-monde lorsqu'elle participe à la conférence de Bandung en 1955. Cependant, face à l'échec du grand bond en avant et la révolution culturelle, la Chine subira un isolement sur la scène internationale. En 1970, un rapprochement avec les États-Unis s'effectue suite à plusieurs raisons et principalement à cause du désastreux état dans lequel la Chine se trouvait et la pensée des réalistes à l'intérieur du Parti communiste qui réussissent à imposer une idée de rapprochement avec les Occidentaux. Ce rapprochement est encore d'actualité. Suite à la mort de Mao en 1976, Deng Xiaoping, prend le pouvoir en 1978 et sa politique marque une rupture avec le régime précédent. Il dénonce le retard économique pris par la Chine et constate que les pays voisins à système économique capitaliste comme la Corée du Sud ou le Taïwan ont atteint un niveau de vie plus élevé. Il entreprend alors la mise en place des quatre modernisations. Cette mesure comprend l'agriculture, qui permet le libre usage des terres sans pour autant en autoriser la possession privée, l'industrie, qui donne de l'autonomie aux entreprises d'État et autorise les entreprises privées, la recherche et la défense. L'économie cessa donc d'être une économie planifiée, contrôlée par l'État, et passa à être une économie de marché où les agents économiques agissent librement. Et finalement, il réhabilite et libère certains opposants politiques, mais ne démocratise pas le pays sur le plan politique. Quant à l'économie, cette politique de modernisation voulue par Deng Xiaoping s'appuie sur une ouverture de l'économie chinoise à l'international. Il veut attirer des IDE, il crée des ZEE, il utilise la main-d'œuvre abondante et peu chère pour faire de son pays un pays atelier, il multiplie les accords commerciaux. Les exportations chinoises augmentent exponentiellement, ce qui lui permet de se proclamer comme puissance mondiale. Puis, elle adhère à la Banque mondiale et au FMI et accueille de nombreuses délocalisations de FTN qui cherchent à maximiser leurs bénéfices. D'autre part, la Chine connaît une avancée technologique importante avec l'acquisition de la bombe nucléaire. De plus, elle a un rôle important dans le commerce mondial grâce à ses ports comme celui de Shanghai qui joue un rôle très important à l'échelle mondiale et facilite ainsi les échanges entre la Chine et le reste du monde. La Chine s'est vue forcée à développer son économie en vue d'assouvir les besoins de sa population. Elle se positionne comme la deuxième puissance mondiale après les États-Unis, avec un système économique libéral et libre-échangiste, malgré son système politique communiste qui persiste encore de nos jours.
Moment de détente en fin d'émission avec une chanson sur la trajectoire d'un produit mondialisé avec Myriam, Pénélope et Cara.
Accélération des échanges financiers et aussi commerciaux. Ces échanges se font entre tous les pays et sont pour nous nos économies primordiales.
Si on était américain, on parlerait de globalisation. Mais ici, l'idée est contraire. On ne veut plus de barrières. C'est important le développement des technologies de l'information et de la communication. Ceci provoque beaucoup d'interactions.
C'est la mondialisation.
Pour illustrer cela, prenons le Nutella.
Désolée, je comprends pas.
Laisse-moi t'expliquer ça. Le Nutella arrive chez toi et il est exporté par des conteneurs qui traversent la mer. Le Nutella est exporté dans 200 pays du monde entier.
Ces ingrédients se composent principalement de sucre, d'huile de palme, de noisettes, de poudre de lait, de cacao.
Ils viennent de France, Chine, Papouasie, Brésil, Malaisie, Indonésie, Belgique, Géorgie, Chili, et puis l'Italie, et aussi l'Australie.
Afrique du Sud, Turquie, Argentine, Côte d'Ivoire, Pologne, Nigeria font le Nutella.
On retrouve aussi des camions, des bateaux, des trains, des avions.
Ils prennent la direction de chez toi pour que tu manges du Nutella.
Chacun de tous ces pays se charge d'un produit. Dans la fabrication, on trouvera la délocalisation.
En conclusion, la mondialisation fait marcher le marché. Tout comme un système qui fonctionne en réseau. On observe la présence du libre-échange, la spécialisation, résultat de la délocalisation.
Mais nous trouvons aussi des avantages et des contraintes. Les FMN vont juger de ces business qui peuvent entrer.
Basant sur la dotation factorielle, détruisant le commerce additionnel, pouvant porter à l'exploitation dans les PMA. Oui,
c'est la mondialisation. Oui, c'est la mondialisation.
Merci à tous pour votre fidélité et votre écoute.
Et nous vous disons à très bientôt.